Je me suis donné comme mission cet après-midi de vous sensibiliser peut-être à certaines difficultés, mais aussi vraiment aux conditions gagnantes de travailler ensemble, les cliniciens, les chercheurs, les décideurs dans le système de soins. Je ne suis peut-être pas un bon exemple personnel pour ça parce que moi, j'ai les trois chapeaux à différents moments dans ma carrière professionnelle, puis là, simultanément, actuellement. Donc, des fois, c'est un défi. Mais je viens vous parler en fait au nom de notre sous-comité du programme Agir sur sa santé, qui est le programme de prévention et gestion intégrée des maladies chroniques en Estrie. En Estrie, notre directrice de la santé publique, Mélissa Généreux, s'est beaucoup attardée à avoir un portrait populationnel clair. Donc, on a procédé à une enquête sur la santé dans la population en Estrie en 2014. Et on voit que dans un échantillon représentatif là, des Estriens, 54% rapportent avoir un surplus de poids ou être obèses selon ce qu'ils rapportent comme poids et taille. Presque 7% sont atteints de diabète, 17% d'hypertension artérielle. Presque 6% déclarent souffrir déjà d'une maladie cardiaque diagnostiquée. Et dans nos données, en fait, d'hospitalisation, on se rend compte que les maladies de l'appareil cardiovasculaire sont la première cause d'hospitalisation. Nos habitudes de vie sont pas mieux probablement que dans le reste du Québec. Peut-être qu'on fume un peu moins, 17% là, chez les 18 ans et plus. Mais c'est clair qu'il y a plus de la moitié des adultes là, qui n'atteignent pas les recommandations minimales de consommer 5 fruits et légumes par jour ou de faire de l'activité physique 30 minutes. Et on sait qu'au niveau de la pathophysiologie, en fait, plusieurs maladies cardiométaboliques, que ce soit la maladie cardiovasculaire en tant que telle, l'obésité, le diabète, l'hypertension, vont être liées par des mécanismes communs, mais aussi par le fait que pour les prévenir et pour aider à les contrôler, les habitudes de vie seront vraiment là, centrales dans les interventions cliniques au niveau individuel. En Estrie, déjà, depuis plusieurs années, on avait été sensibilisés à ça. Il y avait des programmes qui avaient lieu surtout dans les centres de santé et services sociaux, dans la mission CLSC. On avait quatre programmes qui étaient supportés par les cliniques spécialisées du CHU. Puis je dirais que c'est peut-être une particularité de notre région, c'est qu'on a un long historique de travailler ensemble entre la première ligne et les soins spécialisés, une belle communication. Donc, on avait un programme en diabète, on avait un programme de réadaptation cardiovasculaire aussi, un programme d'insuffisance cardiaque, un programme saines habitudes de vie 0530 et les centres d'abandon du tabac, comme dans les autres régions aussi. Au moment où on a amorcé nos travaux autour de 2009-2010, on avait 14 groupes de médecine de famille, dont la majorité, en fait, avait priorisé la gestion des maladies chroniques là, et de leurs facteurs de risque dans les interventions, particulièrement auprès des infirmières et des services et des soins partagés avec le médecin de famille. Et comme je vous l'ai dit, là, on avait une belle collaboration de différentes équipes de cliniques spécialisées. Par contre, après l'implantation de ces différents programmes-là, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait certains besoins ou obstacles qui émergeaient. Donc, le premier et le plus important était le fait que ces services-là avaient été développés en silo, avaient été implantés aussi un peu en silo, malgré le fait que c'était souvent les mêmes intervenants qui participaient aux quatre programmes. Les recommandations, quand on regardait les programmes éducatifs, en fait, ils semblaient semblables. Par contre, sur le terrain, on pouvait parler d'alimentation, du guide alimentaire canadien dans des programmes diabète ou cardiovasculaire, mais les messages clés n'étaient pas toujours identifiés comme étant exactement les mêmes. On voulait aussi mieux prendre en charge les patients qui avaient des multimorbidités. On sait que les maladies chroniques, on l'a vu tantôt, dans les populations défavorisées, mais chez les autres, viennent souvent en groupe. Donc, mieux intégrer la prévention aussi, pour les raisons qu'on a mentionnées tout à l'heure. Mesurer les effets, la performance, on est vraiment maintenant dans un système de performance. Moi, je participe maintenant à des réunions, des gestionnaires. Nous, au CIUSSS de l'Estrie, on fait de la gestion matricielle. Hein? Levez la main ceux qui ont entendu parler de ça. Les gestionnaires eux-mêmes. Donc, au lieu vraiment de gérer par service, par programme, on a encore les services, on a une direction des services généraux, la direction de la santé publique, la DSP, la direction des soins infirmiers, etc. Mais on a des trajectoires de soins. Donc, la maladie chronique, ça fait partie des trajectoires de soins. Et là, on est en train d'essayer de co-construire ensemble comment est-ce qu'on peut gérer efficacement le système de santé en ayant comme trame de fond la trajectoire du patient, donc travailler ensemble les ressources, le service des finances avec la direction des soins infirmiers, pour donner un exemple. Puis l'autre grand enjeu, c'était d'améliorer l'accès à la clientèle orpheline. Notre ministre de la Santé nous dit que ce ne sera plus un problème en 2017, mais ici en Estrie, on avait à peu près 25 % de patients qui étaient sans médecin de famille. Et malheureusement, dans nos anciens programmes, étant donné la complexité de la gestion dans le CLSC où il n'y avait pas de médecin de cette clientèle-là, en fait, ils n'avaient pas accès à nos programmes de maladies chroniques. Donc ça, c'était quelque chose qu'on voulait résoudre comme difficulté. Donc, comment est-ce qu'on s'y est pris? En fait, on a commencé à travailler ensemble, les cliniciens, chercheurs et gestionnaires, à partir de l'automne 2010, pour vraiment faire émerger l'idée qu'il y aurait un avantage d'intégrer nos services à travers tout le continuum de soins, mais aussi les activités préventives et les activités de gestion au sein d'un programme unique. Et là, on a été à travers toutes les étapes hiérarchiques pour avoir un premier contact avec les gestionnaires, mais ensuite se positionner. Il y avait un sous-comité de maladies chroniques, donc de positionner le comité vraiment en faveur de cette idée-là. On a par la suite été présenté le projet à la table de coordination du réseau de santé et services sociaux de l'Estrie dans notre ancienne agence de santé et on a obtenu leur soutien. Ce qui nous a permis, je dirais, deux choses. Premièrement, d'amorcer des travaux d'un groupe de travail, de mettre sur table un peu les balises du projet, mais aussi, en fait, avec ce groupe de travail-là, de pouvoir générer une demande de subvention ensemble, cliniciens, chercheurs, pour aller chercher des ressources pour pouvoir développer notre programme et l'évaluer. Donc, on a eu une subvention de la Fondation Lassun, de 2012 à 2014, et ensuite, on a eu une subvention du ministère de la Santé qui a pris le relais, qui nous a permis de compléter là, l'implantation et d'aussi compléter certains éléments d'évaluation. Avec notre première subvention, qu'est-ce qu'on a fait? Je vais vous montrer certaines données. On a fait une évaluation de la situation actuelle, des défis, mais aussi des forces de nos programmes sur le terrain, et ça nous a permis d'orienter beaucoup les travaux de confection de notre nouvelle trajectoire de soins intégrée. On a aussi, à ce moment-là, amorcé l'implantation du programme dans les centres de santé et services sociaux de la mission CLSC et on a amorcé un soutien à l'implantation. Puis avec l'octroi du ministère, qui se termine cette année, en fait, on a pu implanter le programme aussi dans les GMF et commencer, en fait, on va compléter l'évaluation de l'impact, un impact quand même assez large. On évalue autant la perspective du patient, des professionnels de la santé que des indicateurs d'accessibilité, de qualité organisationnelle et de qualité technique des soins de santé pour la clientèle à risque ou atteinte de maladies chroniques. Je vous présente rapidement le groupe de travail, en fait, pour vous dire que c'est un groupe qui était multi-compétents. On avait des gestionnaires, on avait des cliniciens, des médecins de famille, des spécialistes, on avait des infirmières, des nutritionnistes, kinésiologues. Tous les membres de l'équipe étaient autour de la table. Puis c'est sûr que là, on s'est réunis très, très régulièrement. Et une autre condition de succès, c'est que grâce à la subvention qu'on avait obtenue, on avait des chargés de projet aussi qui pouvaient aider à rattacher tout le monde, aller chercher la littérature, puis faire avancer nos travaux plus rondement. Donc, on s'est basé sur nos cadres de référence existants. On n'a pas tout mis à la poubelle. Les lignes directrices canadiennes, c'est sûr, pour essayer d'avoir les meilleures pratiques, avec un peu de littérature émergente aussi quand il y avait eu des nouveautés. Le modèle d'organisation des soins, on en a discuté, et beaucoup sur les résultats de notre évaluation pré-implantation pour identifier des lacunes dans les soins qui étaient prodigués dans notre région. C'est ici une représentation schématique de la trajectoire de soins dans le programme Agir sur sa santé. Je dirais que le nom du programme en dit quand même pas mal sur son contenu, parce que c'est vraiment la personne qui est amenée à faire une évaluation avec l'intervenant pivot, qui est une infirmière dans la plupart des cas, de sa situation actuelle, de ses facteurs de risque, des améliorations possibles et qui fait le choix de s'engager dans différentes activités. Donc, tous les patients qui ont au moins un facteur de risque, donc ce n'est pas seulement les personnes malades qui sont éligibles, peuvent rencontrer une infirmière pour une évaluation initiale globale. Et cette évaluation-là, elle se fait dans le CLSC pour les patients qui n'ont pas de médecin de famille, sinon au sein du GMF avec les infirmières de GMF. On va dépister les autres facteurs de risque supplémentaires, évaluer la réceptivité au changement aussi du patient pour chacune des habitudes qui est identifiée comme pouvant être optimisée. Ensuite, la personne va avoir un accès à des activités en groupe dans le CLSC. C'est un peu notre approche de prévention populationnelle aussi. Les personnes qui ont seulement des facteurs de risque sans maladie vont avoir accès surtout à cette partie-là du programme qu'on appelle le tronc commun saines habitudes de vie. C'est vraiment un menu à la carte, là. Ils ne sont pas obligés de venir aux 10 ateliers. C'est des ateliers en groupe d'entretien motivationnel, vraiment basés sur le développement des compétences, puis aussi la progression de la personne là, à travers le changement, que ce soit pour l'activité physique dans 2 ateliers, l'alimentation, 3 ateliers, mais aussi l'adaptation à la maladie, le processus de changement en tant que tel, gestion du stress et sommeil, le poids santé, tabac, alcool et stimulants. Tout au long de ça, pour les personnes malades, il y a des réévaluations régulières et différentes stratégies personnalisées qui pourront être offertes si la personne fume, si elle est atteinte de diabète, dyslipidémie, hypertension, obésité ou maladie cardiovasculaire établie. Et dans ces stratégies personnalisées-là, c'est un mélange d'activités en groupe, éducatives, de soutien à l'autogestion aussi, des interventions cliniques qui sont supportées par des ordonnances collectives pour les infirmières du programme. On a aussi bien établi des critères de référence en deuxième, troisième ligne aux soins spécialisés, aller-retour, support aussi pour les cas plus complexes avec des discussions avec nos intervenants des cliniques spécialisées. Et même si j'en parle en dernier, de façon très, très importante, beaucoup de liens avec les ressources communautaires. Donc, dans chaque réseau local de services, on a identifié toutes les ressources dans les différents domaines des habitudes de vie, des groupes de support aussi pour certaines maladies spécifiques qui sont vraiment intégrés dans le programme et il y a du référencement là, bidirectionnel pour ça. Donc, ça vous donne un peu une idée générale. Donc, on a remplacé nos 4 programmes par ce programme-là. Et en trame de fond, parce que là, je vous ai présenté les activités, il y a vraiment aussi eu un changement, non seulement des activités, mais aussi de la façon d'intervenir. Donc, on a formé et accompagner nos professionnels dans le changement de pratique qui vise plus finalement l'accompagnement de la personne que l'enseignement traditionnel de façon plus didactique. Donc, en trame de fond, dans tous nos guides d'intervention, dans toutes nos formations, on a ce processus d'accueillir, de prendre connaissance, d'estimer l'étape du changement, explorer, construire la motivation, faciliter l'élaboration du plan d'action et soutenir le changement en prévenant la rechute. Et on a aussi choisi d'intervenir en groupe lorsque c'est faisable, non seulement pour des raisons d'économie de ressources, mais aussi parce que c'est plus efficace, adapter l'intervention et informer, outiller. On a fait une multitude d'activités de soutien à l'implantation pour que ça soit gagnant. Donc oui, des formations plus traditionnelles au départ, mais on a aussi un guide de l'intervenant qui est très détaillé. En fait, c'est 2 gros cartables avec chacune des activités où on prend les gens par la main, clé en main. On va regarder les aspects théoriques qui sont en lien avec nos interventions, mais aussi différents outils cliniques, les outils d'enseignement. On a eu 2 agents de soutien à l'implantation sur le terrain depuis l'amorce de l'implantation qui vont faire des visites en personne, mais qui sont aussi disponibles là, entre les rencontres. On a fait des formations supplémentaires en entretien motivationnel. On a formé des gens, des infirmières pour utiliser des ordonnances collectives et on fait actuellement beaucoup de rencontres de co-développement où on va à l'aide de cas pratiques vraiment discuter des différents éléments du programme. On en a fait en diabète, en obésité, etc.